Le Front populaire en réaménagement urbain. Véronique Laflamme en est la porte-parole. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des similitudes entre les régions du Québec? Parce que nous autres, on dirait, je regarde les chiffres, là, nous autres, on est chanceux, on paie le moins cher pour se loger au Québec, puis en plus de ça, il y en a plus qu'ailleurs au Québec.
Bien, effectivement, que la région métropolitaine de Trois-Rivières, comme celle de Saguenay, c'est une des deux là, qui est encore, si vous voulez, épargnée par la pénurie de logements locatifs. Malgré tout, le taux d'inoccupation a baissé drastiquement depuis l'année passée là, à Trois-Rivières. Donc, on peut pas dire là, sans aucun doute que l'année prochaine, il n'y aura pas une pénurie de logements à Trois-Rivières. Par contre, ce qui caractérise Trois-Rivières, c'est que les locataires sont les plus pauvres au Québec. On dit souvent que Trois-Rivières, c'est la ville où les logements sont le moins chers au Québec. C'est vrai, mais c'est aussi là que les revenus médians des ménages locataires est le plus bas. On parle même d'un écart là, qui approche de 10 000 $ pour la Mauricie. Les ménages locataires de Trois-Rivières ont un revenu médian annuel de 6 000 $ plus bas que la moyenne des locataires du Québec. Alors, ça ne compense pas pour l'écart entre le coût des loyers. Donc, on ne peut pas dire que les locataires, finalement, au bout de la ligne, sont plus riches après avoir payé leur logement. C'est assez notable là, que même s'il y a des logements qui sont disponibles, non seulement leur état laisse à désirer, mais les gens ayant un revenu beaucoup plus bas, ben, au bout de la ligne, il reste très peu de revenus, finalement, au bout du mois pour payer les autres factures.
Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, des logements qui sont insalubres, qui sont mal entretenus, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tu sais, y a comme une espèce de cercle vicieux là-dedans. Celui qui est le propriétaire du bloc appartement, entre autres, qui a un loyer à 500$, peut toujours pas bien investir 100 000$ et relouer son loyer au même prix. Il n'y a pas là un problème qui est un peu vicieux?
Ben, écoutez, c'est sûr que quand il y a des rénovations majeures, le formulaire de calcul prévoit toujours qu'il y a des hausses de loyer plus importantes qui peuvent venir avec. Hein. C'est sûr que pour les propriétaires, l'immobilier, c'est un investissement. On achète des blocs pour finalement faire de l'argent. Et c'est là où nous, on dit qu'il ne faut pas compter que sur le marché privé pour faire respecter le droit au logement. Quand les gens ont des revenus aussi bas que ceux qu'une bonne partie des ménages locataires de Trois-Rivières, il faut autre chose que le marché privé pour répondre à leurs besoins et puis faire en sorte que leur droit au logement est respecté. C'est pour cette raison-là que les logements en très mauvais état, si les propriétaires s'en occupent pas, ben on peut les transformer en logements sociaux. Les logements sociaux, c'est pas juste en construire des nouveaux, mais ça peut être une façon aussi d'améliorer l'état du parc de logements locatifs quand le taux d'inoccupation est encore élevé, comme c'est le cas à Trois-Rivières. Mais il faut s'en occuper parce que c'est préoccupant. Les gens qui vivent dans des logements avec des moisissures, des champignons mal isolés, ça a des conséquences directes sur leur santé, ça a des conséquences sur la santé des enfants, puis on peut pas là mettre ce problème-là de côté. Donc, il faut s'en occuper et c'est bien évident que, comme vous, on est préoccupé par l'impact que ça a sur la hausse du coût des loyers. Donc, il faut quand même entretenir le parc de logements locatifs, mais il faut s'assurer qu'il y a une alternative pour les gens qui peuvent pas se loger là, au prix exigé actuellement.
Est-ce que c'est un mythe? Dernière question avant de vous laisser aller. Est-ce que c'est vérifiable que maintenant, aujourd'hui, là, on est le 27, la journée des déménagements approche à grands pas, qu'il y en a qui ne seront pas capables de se trouver de logement compte tenu de leurs besoins?
Ah, tout à fait. Je peux vous dire qu'on fait un suivi quotidien à l'heure actuelle dans différentes villes. Et ce n'est pas seulement qu'à Montréal. On parle de Drummondville où il y a une dizaine de locataires qui n'ont toujours pas signé de bail pour le 1er juillet. Il y en a également à Sherbrooke, à Gatineau. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont trouvé des plans B parce qu'on est à quelques jours du 1er juillet devant l'absence de mesures d'aide adéquates mises en place par le gouvernement du Québec pour aider ces gens-là. Ça vient de sortir à la dernière minute hier soir. Les gens, ben, il y en a qui sont allés chez des proches. Il y en a qui ont pris des logements trop chers, trop petits, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce réseau-là. Alors, ces personnes-là sont toujours en recherche à l'heure actuelle et ne savent toujours pas ce qui les attend pour le 1er juillet. On parle de plus de 200 ménages locataires qui sont dans cette situation à travers le Québec. Je ne vous dis pas qu'elles vont se retrouver toutes à la rue, parce qu'il y en a qui vont aller chez des amis, chez de la famille, mais n'empêche que ces personnes-là vont se retrouver sans logis, sans un bail.
Merci, Véronique Laflamme.
Ça fait plaisir.
Elle est la porte-parole du Frappe-Rue.